L'origine rouge de Valère Novarina dans une mise en scène de Gabriel Alvarez au théâtre du Galpon. Valère Novarina dit ne pas écrire pour le théâtre, mais vers le théâtre, en direction du comédien comme objet de désir. Un credo que sans doute Antonin Artaud n'aurait pas renié. Alors, on découvre l'origine rouge et ses mélodrames, ses mimodrames en chansons, travaillés dans un registre parfois parlé-chanté, et puis qui propulse un peu sur scène des personnages pantins. Si on reprend la scène d'origine, celle qui ouvre en fait l'origine rouge, qui est une nomination, comme on en a d'ailleurs ailleurs dans le théâtre, qu'on pense à certaines pièces de Molière notamment, mais là c'est une nomination assez particulière qui fait part de l'évolution de l'humanité. Nous sommes, je crois, dans un anthropodrome, comme l'appelle Valère Novarina, dans cette pièce L'origine rouge, qui traite justement des origines de l'homme et de la langue notamment, et dont l'affiche que vous présentez, eh bien il y a deux singes qui s'esclaffent ou qui parlent sur un fond jaune. Qu'est-ce qui en était justement de ce rapport avec peut-être cette première scène et cette affiche?
Bon, il faut dire que dans les textes de Novarina, l'animalité c'est très présent. Même il y a un petit test dans l'origine rouge où il dit le porc, Dieu c'est le porc, comme animalité en fait. Et quand j'ai dû penser pour la fille, j'ai pensé que les anges, c'était la meilleure façon de rendre présence animale par rapport aussi au langage, parce que, comme vous dites, les anges, on dirait qu'ils chantent ou ils parlent. Et le début du travail, c'était, oui, quelle est la tension entre les chanter et les parler. Et on a travaillé beaucoup sur ça, en fait, sur cette tension-là. Qu'est-ce que c'était à l'origine d'abord, les chants ou la parole parlée?
Alors justement, la langue de Novarina a ceci de singulier, de particulier, quelle est musicalité? C'est un petit peu entre le free jazz, l'accordéon, qui accompagne beaucoup de ses créations, qui accompagne celle-ci avec Marie-Claire Roulin, juchée justement sur un... non pas un fauteuil arbitral, mais disons quelqu'un comme peut-être un entraîneur ou un juge de paix qui surblomberait la scène et qui interprète plusieurs morceaux à l'accordéon, qui étonneront beaucoup d'ailleurs ceux qui ont vu l'Origine rouge, notamment en 2000 en Avision au Cloître des Carmes, dans une mise en scène de Valère Novarina, parce que alors là, elle passe vraiment du jazz au blues, à la chanson réaliste poétique, dans une variété qu'on ne connaissait pas, en tout cas dans ce que monte Valère Novarina. Dans l'adaptation que vous faites de cette pièce, si on peut appeler adaptation et transfiguration, il semblerait qu'il y ait un très bel équilibre entre cet aspect chant tourné, chansonné, et le texte. Ce qui n'est pas vraiment le cas lorsqu'on a la version intégrale. Est-ce que vous vouliez quand même, justement, avoir, je dis pas ces respirations, hein, mais il y a une continuité énergétique de l'un à l'autre, de la chanson au texte?
Vous savez, de mon point de vue, en lisant ces textes, moi je suis pas francophone et j'avais travaillé depuis longtemps, même en passant par des traductions au texte de Müller. Et là, en prenant un auteur français, et je découvre qu'il y a un énorme travail sur la langue française avec un côté très populaire de la langue. C'est très, très particulier. Et vite, quand je lis ce texte, ça m'a fait penser à Tati, par exemple. Et donc, l'accordéon, c'était, oui, c'était un instrument qui fait penser aux foires et aux fêtes populaires. À une dimension qui est très présente de Novarina, parce qu'il prend aussi beaucoup de dictons, de dialectes, de jargons anciens paysans et de montagnards, et dans les textes il y a certaines. Donc moi je voulais voir comment trouver ce côté populaire, disons, mais dans le bon sens musical de la langue de Novarina.
Alors justement, cette langue de Novarina, elle s'accompagne aussi d'une forme de théâtre qu'on pourrait dire post-dramatique, pour simplifier. C'est-à-dire que, quand quand on entre dans cette langue, dans ce nouveau patron de la langue à vif, il faut abandonner les catégories canoniques de la dramaturgie un petit peu au vestiaire. C'est-à-dire que, comme chez Heiner Müller d'ailleurs, mais avec d'autres modalités, personnages, psychologie, déroulement logique du récit sont à abandonner. S'il y a une incarnation qui doit se faire, sans doute elle doit se faire du mot vers l'acteur. Qu'est-ce qu'il en a été justement de travailler sur un texte qui n'a pas nécessairement une fable, hein, qui est une suite de à la fois de réflexions philosophiques, mais de côté très charnel, très incarné autour de l'espace, du temps, de la langue.
Vous savez, pour moi, du point de vue dramaturgique, le travail de Novarina, il est plus proche du cirque que du théâtre. Et c'est vraiment des numéros de cirque. Mais dans le bon sens, sans filet, parce que pour les acteurs, c'est une énorme performance déjà mettre en cœur et en corps ces tests. Il n'y a pas de filet parce que c'est pas possible. Et c'est des entrées, des sorties, en fait. C'est vraiment, les structures, c'est des numéros de cirque, en fait. Il y a une entrée, il y a une sortie, il y a un supérieur, il y a un funambule, et voilà, le nouveau numéro. Et en discutant avec les acteurs, moi je voulais quelque chose qui soit très rythmé mais pris du point de vue du cirque en fait.
Alors justement ce point de vue du cirque, on en retrouve à quelques échos dans les costumes qui font penser à certains costumes de scène à la fois de l'univers circassien, peut-être beckettien ou de Peter Wisbrod par exemple dans certains de ses spectacles, sans être exhaustif dans ce que l'on cite. En même temps, c'est vrai que cette pièce s'ouvre justement par cette énumération, ce qu'on a appelé une taxinomie de l'homme, hein, qui va effectivement du Purgatorius Ceratops à l'Homo sapiens sapiens, en cheminant par l'Homo erectus. Vous avez choisi un espace très particulier pour le montrer. José Ponce m'avait dit que, vu que le galpon était à un stade terminal, on aurait pu défoncer encore plus. Là, vous avez laisser une ouverture un petit peu comme dans un tableau de Magritte, hein, je cite, mais il y en a peut-être d'autres, une trouée dans le mur. Pourquoi justement ce côté de faire cette énumération au départ totalement hors champ, hein?
Et parce que il y a, si vous avez constaté, il y a deux arbres dans le spectacle, un qui est vivant, vrai, à l'entrée, qui est un peu symbolique de la situation du galpon. Voilà, pour dire le galpon, il est encore vivant. Il n'est pas mort, et cet arbre il est enraciné dans les galpons, l'a planté avec ses racines. Et de l'autre côté, il y a un arbre beaucoup plus théâtral, que c'est, ça peut symboliser l'arbre de la connaissance, en fait. Et je voulais jouer parce que, bon, pour moi, c'est, avoir venu ici à Galpon, c'était un choix, parce que pour moi, c'est important, du point de vue scénique, avoir un espace vide, et en partant du vide, construire chaque scénographie. Comme c'est le dernier spectacle au Galpon, je voulais voir toutes les possibilités qui donnaient un espace vide. Donc on a le spectacle qui commence dans la salle de répétition, et après on a défoncé le mur pour passer au théâtre, et à la fin, la cuisine et le restaurant, ils font un.
Alors de ce premier espace au mur blanchi, avec d'immenses pyramides de journaux, cet arbre dont vous parliez, et quelques vasques contenant de la peinture. On rappellera que Valère Novarina est aussi peintre et qu'il parle souvent de son écriture comme une écriture pariétale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit comme Ramu avec la main, et il y a tout le geste de la main. Vous avez voulu aussi le retenir avec cette sorte de dripping comme ça que vous créez dans cette pièce.
Oui, et en plus c'est les rouges du sang, en fait, c'est présent et du sacrifice et les sangs menstruels, c'est très présent chez Novarina dans l'origine rouge, et c'est la violence du rouge, en fait, pas seulement du point de vue de la peinture, mais aussi du point de vue du sacrifice. Donc c'était un peu de ce point de vue. L'histoire des montagnes de journaux qu'on voit partout, c'est parce que je pense que dans l'écriture de Novarina, il y a un côté politique très présent, et c'est cette lutte de Novarina contre la désinformation, en fait. Comme le langage, de plus en plus, le langage poétique, il est sapé, envahi, annihilé par l'information. Là, il y a un personnage c'est un leitmotiv qu'on utilise pendant la pièce et au montage que j'ai fait, parce qu'il faut dire, la pièce originelle dure 2h30, nous on a fait 1h30 seulement. C'est la machine à dire voici, que c'est une parodie des prompteurs des journaux de 20 heures. Et donc, notre espace, c'est comme une île entourée de l'information.
Alors, Valero Novarina me disait justement qu'il y avait plusieurs langages qu'il confrontait lors de sa création en 2000 au Cloître des Carmes. D'une part, il y a ce langage, cette novlangue médiatique qui est une sorte, pour lui, d'impérialisme américain, c'est-à-dire effectivement une langue pathique, vide de sens. Et il y a plusieurs de ces numéros que vous traitez, mais vous allez nous en parler comme des numéros clownesques, mais alors pas du tout comme chez Novarina, où on est très dans le registre commedia dell'arte. Là, on est dans un registre beaucoup plus en creux, vraiment qui nous déporte, je dirais, de manière extrêmement intéressante ailleurs. Et puis, effectivement, d'autre part, cet écrit d'une part qui le ramène au langage des Romains, c'est-à-dire le langage de la loi, qui est aussi celui des juristes, qui sert à codifier une langue, mais aussi évidemment ce langage charnel qui accouple un petit peu à la sauvage les patois ou savoyards qu'il connaît bien, puisqu'il traverse beaucoup les montagnes. Vous en avez gardé quelque chose dans cette marche. Justement, sur ces plusieurs numéros, où se mêlent divers, à la fois des bulletins météorologiques, mais en même temps, il y a des nouvelles de conflit. On rappelle qu'on est en l'an 2000, il l'a conçu en 99, on sort de la guerre de Bosnie, il a eu une attitude très tranchée vis-à-vis de la défaite des démocraties européennes, comme d'autres, Olivier Py par exemple, vis-à-vis de cet engagement de l'Occident, ou de cet désintéressement plutôt de l'Occident pour la cause bosniaque. Qu'est-ce qu'il en était justement dans cette manière de traiter à plusieurs reprises ces moments qui sont comme détachés chez vous vraiment du reste de la pièce? Il y a une partition lumière particulière, il y a une manière de rapprocher les êtres à un moment donné. Comment vous les avez pris? Parce que c'est des moments qui sont quand même très très délicats. Hein. On parle aussi de catastrophes industrielles en France, qui sont toutes vraies d'ailleurs.
Oui, ben, je voulais focaliser l'attention du public sur des visages qui parlent comme des automates, des manière très mécanique pour nous envoyer cette déferlante d'informations qui est traitée quand même comme tout de Novarina, avec beaucoup de sarcasme, avec beaucoup d'ironie et d'une manière très très ludique. Mais c'est que parfois on pense que l'écriture de Novarina c'est une écriture formelle qui n'a pas de contenu, et au contraire, la difficulté de... Il y a un énorme contenu philosophique déjà, et un contenu politique très tranchant en fait. Et je voulais aussi donner l'importance de dire, voilà, c'est pas que la forme qui nous intéresse de la langue de Novarina, mais aussi son contenu.
Alors, quand on voit une mise en scène de Novarina, mais aussi à l'écriture, peut-être, si on arrive à visualiser, on a un petit peu l'impression parfois d'un tableau à la Bruegel, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'actions qui se déroulent. Et puis c'est parfois entre la chorégraphie et le théâtre, avec ce mélange de concret dans les actions et puis d'abstrait au niveau philosophique parfois, même si c'est toujours une langue extrêmement charnelle, goûteuse, juteuse, rablaisienne. En même temps, qu'est-ce qu'il en est, puisqu'on est aussi du côté de Jarry que vous avez monté, et notamment alors au niveau de toutes ces images dont on ne cherchera pas véritablement d'interprétation, mais peut-être que ça a été comme ça une sorte d'embrayeur d'imaginaire chez vous, notamment concernant l'homme tube qui revient. Il est beaucoup aussi question d'anus scénique, ça sera plutôt dans l'acte inconnu notamment. Mais disons, il est beaucoup question vraiment de ce corps dans tout ce qu'il a de déjection. Et comment est-ce que vous l'avez considéré?
Vous savez, la difficulté, Novarina, il y a une formule que je trouve très pertinente pour parler du personnage. Il dit qu'au lieu d'utiliser le mot personnage, il faudrait utiliser la parole personne, avec l'ambiguïté qu'il y a dans la langue française. Personne. Personne, c'est personne. Et demander ça à un acteur, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que il faut disparaître tout en restant là pour y parler. Et on a travaillé beaucoup, et je pense que au fur et à mesure que le spectacle va rôder, ils vont arriver à trouver. Ça demande que l'acteur qui a des repères pour jouer, il doit trouver complètement des autres repères, comme être là tout en étant absent. Et du point de vue de la figure, je suis parti des deux SDF, des gens sans domicile fixe, donc perdus, qui déambulent dans l'espace. Aussi pour aider à partir de cette image de comment les acteurs ils peuvent. Il y a la demande de ne pas incarner tout en même temps d'incarner la parole, de ne pas incarner une figure, de ne pas incarner un personnage, mais en restant très présent pour que la parole il passe à travers les corps des acteurs en fait.
Alors, il est beaucoup question de combustion des mots dans le travail que fait Novarina avec des acteurs comme André Marcon, par exemple. Oui. Il est beaucoup question de respiration aussi. Comment est-ce qu'on aborde cette question de cette combustion des mots qui sont véritablement un matériau énergétique que le corps doit faire sien dans la scansion, dans la manière de le rythmer, dans cette manière de respirer, qui est d'ailleurs très présente dans le texte, hein. C'est comme dans beaucoup de pièces, si on osait les appeler ainsi, de Novarina, c'est presque parfois imprécis sur le théâtre, hein, et la manière de le faire, quitte à ce que lui le contredise lorsqu'il le met en scène, lorsqu'il met en scène lui-même les textes. Mais qu'est-ce qu'il en est sur cette question de la combustion qui est au fond assez proche du théâtre de la cruauté d'Artaud?
Vous savez, moi je pense que la dramaturgie française, elle est très déterminée encore par le XVIIIe siècle. Le bon goût qu'on appelle le bon goût français en fait. Et dans l'écriture de Novarina, on se retrouve à l'origine rouge sur l'organique. Donc il y a énormément de métaphores et de mots sur manger, accoupler, et renvoyer. C'est vachement important. Et ça renvoie vraiment à une organicité, une demande d'organicité de l'acteur. C'est pas seulement respirer, mais déglutir, vomir, manger. Et on a expérimenté surtout dans le travail de préparation, le travail vocal, on a travaillé beaucoup dans cette direction-là, comment trouver une organicité vraiment, parce que les textes de Novarina pour moi sont irréprésentables. Et donc, si un acteur on demande, il n'y a rien à représenter, il se sent vite démuni, mais si on demande comment trouver l'organicité pour y parler, et là ça devient intéressant.
Alors, sur la place des chansons, c'est assez particulier. On se rappelle, vous parliez du 18e, on peut un petit peu avancer dans le temps en prenant peut-être comme exemple, et non pas nécessairement comme matrice de ce que fait Novarina, mais ce qu'on a dans des pièces de la Biche, c'est-à-dire effectivement toujours ces scènes chantées, qu'on retrouvera évidemment d'une autre manière selon d'autres modalités chez Brecht, mais qui ont une fonction essentielle en elles-mêmes. Ici, il y a quasiment, parce qu'il y a un rapport à la mort et à l'auto-engendrement, et l'engendrement qui est constant dans la pièce. On dit d'ailleurs à un moment donné mort à la mort, je crois, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il en est justement de ces chansons? À un moment donné, je crois que l'un des comédiens dit à l'autre, et en substance, il te reste plus que 8 chansons avant la fin. Donc qu'est-ce qu'il en était avec ces chansons? Comment vous les avez prises? Parce que vous avez fait, je crois, une sélection.
Écoutez, presque toutes les chansons du test, ils sont là, parce que ça m'intéressait beaucoup, la partie musicale et rythmique. Et la chose qui est intéressante, et bon, on a invité M. Novarina, je pense qu'il va venir bientôt voir la pièce. Je suis très curieux de voir, parce que il parle des chansons, mais il n'y a pas la musique. Donc nous, Marc Roulin, il a composé la musique. Et on verra comment il va recevoir la musique de ses chansons, en fait.
Mais ces chansons, justement, qu'est-ce qu'elles disent? Parce qu'à un moment donné, ces chansons sur la chanson, enfin, il y a une manière aussi de, je ne sais plus exactement quelle était la formule, mais de replier la chanson sur elle-même. Est-ce que pour vous, c'est un commentaire? Est-ce qu'on est dans un autre univers? Parce que c'est vrai qu'on navigue dans plusieurs univers musicaux. On est parfois proche d'ailleurs, je dirais pas du cabaret, mais d'une certaine forme, disons, de revue en chanson. Qu'est-ce que pour vous ça apporte justement dans la manière aussi de dire, de proférer un texte, que ça soit justement chantourné.
Oui, l'idée c'est comment passer du chant à la parole et de la parole au chant avec l'accompagnement musical. Et ils chantent aussi beaucoup a cappella, donc parfois c'est mi-chanter, mi-parler, parce que c'est une démarche que je développe depuis quelques temps et qui m'intéresse beaucoup, et qu'avec le texte de Novarina, il y avait cette possibilité. Mais en même temps, il parle d'un pot pourri, putréfact. On revient à l'organique qui se décompose. Et à, oui, à ces espèces de fêtes populaires ou à une espèce de fête d'artifice du 14 juillet dans un petit village à la montagne. Moi, je pense qu'il y a cette dimension aussi dans les textes de Novarina.